Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bienfaits des études en français. Un texte d'Eya Ben Nejem de Franco Presse, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. S'inscrire dans un établissement postsecondaire francophone en contexte minoritaire comporterait bien des avantages, aussi bien du point de vue personnel, professionnel et social. La poursuite d'études universitaires en français favorise le développement d'un sentiment de bien-être psychologique. C'est l'une des conclusions d'une recherche d'André Sanson, professeur titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. À noter que cette recherche n'a pas encore été publiée ou révisée par des pairs. Pour la réaliser, le chercheur s'est entretenu avec des étudiants de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, CCNB, et de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Les étudiants qui choisissent la voie francophone du savoir, citation, continuent à solidifier leur identité linguistique, fin de citation, puisqu'ils continuent à vivre en français, informe André Sanson. Ève Léger, titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Moncton, assure que son choix universitaire lui a permis de connaître davantage sa communauté acadienne et de créer des liens durables. Renforcer son identité francophone. Citation. Aller à l'université, ce n'est pas seulement s'y rendre pour acquérir des connaissances ou du savoir-faire. C'est vraiment aussi se forger, se former. Fin de citation, commente de son côté Julie Boissonneau, chercheuse en résidence au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes à l'Université d'Ottawa. Citation. Étudier en français en milieu minoritaire permet aussi de parler avec son propre accent sans avoir l'impression d'être jugé. Fin de citation, ajoute André Sanson. Selon lui, côtoyer des membres de la communauté étudiante venant de diverses régions du Canada et de l'étranger offre une variété d'accents sur le campus, ce qui permet aux francophones d'avoir plus d'assurance dans leur français. Une idée partagée par Ève Léger, aujourd'hui étudiante en maîtrise à l'Université d'Ottawa. Elle témoigne s'être débarrassée de son insécurité linguistique et se sent, citation, « beaucoup plus à l'aise à approcher le monde professionnel en français ». Fin de citation. Une histoire d'héritage. Selon Julie Boissonneau, l'université est un milieu où tout est à refaire, du réseau social à l'apprentissage d'une nouvelle vie autonome et seule. Choisir la langue de confort est important pour éviter, citation, d'ajouter un autre volet au tiraillement que vivent les étudiants. Fin de citation. Alors, il n'est pas rare de voir des jeunes dont le parcours secondaire était en français se diriger vers une université francophone puisqu'ils, citation, connaissent déjà la culture scolaire. Fin de citation, dit-elle. Parler en français aussi à la maison augmente les chances d'aller vers des établissements francophones. Citation, c'est un prolongement d'un héritage. Fin de citation, remarque André Sanson. Depuis son enfance, Ève Léger raconte avoir grandi dans un milieu francophone. Sa scolarité a été faite en français et beaucoup des membres de sa famille, dont sa mère, ont côtoyé l'Université de Moncton. Continuer le chemin universitaire en français, citation, est vraiment une décision personnelle de garder cette francophonie-là très importante pour moi. Fin de citation, dit fièrement Ève Léger. Citation, dans un contexte où les programmes en français disparaissent, comme ce fut le cas à l'Université Laurentienne, il est plus que jamais important de montrer son attachement à son identité afin de protéger le patrimoine francophone pour les prochaines générations. Fin de citation, explique l'étudiante. Choisir en tant que francophone le français à l'anglais en milieu minoritaire, citation, c'est vraiment une bonne démonstration de confiance dans la francophonie. Fin de citation, lâche-t-elle. Et le marché du travail? Contrairement aux idées reçues, André Sanson, Ève Léger et Julie Boissonneau s'accordent pour dire qu'une formation en français permet d'avoir plus d'offres et de choix qu'on imagine. Aujourd'hui, Ève Léger témoigne avoir des contacts avec plusieurs professeurs à travers le Canada grâce à ses contacts à l'Université de Moncton. Citation : J'ai toujours eu un avantage dans le monde du travail depuis que je suis très jeune. Ellipse : La majorité des employés ne le parlent pas, donc là, ça offre des opportunités. Fin de citation. Malgré ces avantages, la formation en français demeure trop peu exploitée par les étudiants francophones, estime Ève Léger. L'étudiante encourage donc les francophones à faire leurs études dans la langue de Molière pour bénéficier de ces avantages et pour que, citation, ça fasse en sorte que la prochaine génération puisse faire ses études en français et développer cette identité francophone. Fin de citation. C'était « Les bienfaits des études en français », un texte d'Eya Ben-Nejem de Francopresse, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Quand les symboles changent de signification, un éditorial de Jean-Philippe Giroux, paru le 21 juin 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qui vous affecte le plus? Un geste? Un mot? C'est à l'âge de 3 à 5 ans que l'enfant commence son développement émotionnel. Tranquillement, il apprend que des mots font sourire, d'autres font mal. Si on enseigne la compassion, ça peut alléger le fardeau. Mais rien ne garantit qu'on ne fera pas face à la méchanceté au cours de notre vie. Alors, comment réagir face à l'imprévu? J'ai assisté récemment à un événement virtuel organisé par Parlons avec confiance. Les présentateurs-présentatrices se sont penchés sur la réappropriation des symboles et stigmas négatifs pour affirmer son identité et les impacts positifs ou négatifs de cette action sur le développement identitaire. Originaire de Truro, la chercheuse Violette Drouin s'est focalisée sur la repolitisation de l'identité acadienne qui, selon elle, se passe très souvent par la réappropriation de symboles négatifs. Elle utilise comme exemple l'amitié et l'alliance entre les Acadiens et les Micmacs, telle qu'on la connaît en se fiant aux récits du 19e siècle, ayant été source de stigmatisation de la part des Anglais au pouvoir, qui croyaient que les Acadiens ne pouvaient pas vraiment être néo-écossais puisqu'ils ont compromis leur identité blanche à travers le mariage interracial. Dans ce contexte, elle propose qu'on renoue avec la conception de l'Acadie d'hier pour en faire aussi l'Acadie d'aujourd'hui. C'est crucial de noter que cette réappropriation est un outil de positionnement politique et pas juste une fin en soi, dit-elle. À mon avis, la réappropriation de stigmas négatifs doit pas juste servir à affirmer notre identité. Elle doit aussi nous servir pour nous replacer sur l'échiquier politique au sens large, pour voir nos liens avec d'autres groupes marginalisés et agir en conséquence. Nathalie Robichaud, la première à présenter lors de l'événement, a utilisé la grenouille comme exemple de réappropriation qui ne fait pas l'unanimité, mais qui a trouvé de l'écho au fil des années. Comme plusieurs le savent déjà, l'histoire du terme « French Frog » lancé par des groupes non francophones pour discriminer et minorer les Acadiens, Canadiens français et français, a eu toute une évolution. Si des personnes plus âgées associent ces deux mots à des expériences traumatisantes et à des mouvements militants, de nouvelles générations l'ont réapproprié avec des images sur des T-shirts ou des symboles sur des logos pour des événements culturels, dont Frogstock. Robichaud a fait un pont entre l'expérience acadienne et franco-ontarienne avec les concerts de la Nuit sur l'Étang qui ont lieu annuellement depuis 1973 à Sudbury. Le premier événement était une nuit blanche où l'on a célébré l'identité canadienne-française, devenue franco-ontarienne, en grand nombre. Pourquoi l'État? Car il s'agit d'une référence à l'habitat des grenouilles. Le but était de se réapproprier un symbole qui, pour très longtemps, était utilisé pour faire honte. Je vais faire un autre pont avec une autre expérience, la mienne. Quand j'étais jeune, le mot qui me blessait le plus était un mot en F, mais pas celui lancé pour attaquer les francophones. C'était ce mot en anglais utilisé pour attaquer les personnes gays. Il était lancé ici et là, entre les jeunes de mon école, et a laissé des cicatrices. Mais au fil des années, en allant à la rencontre d'autres personnes queers, j'ai constaté que plusieurs se sont réappropriés le mot, pas parce que ça ne fait pas mal de l'entendre, mais parce qu'ils ne veulent plus qu'il serve d'arme. Ils ne veulent pas non plus, et c'est l'élément le plus important pour moi, laisser leurs détracteurs prendre le contrôle de leur récit. Réapproprier, reprendre pour soi-même, s'approprier ce qui a été aliéné. C'est un choix controversé, mais pour certains, c'est une nécessité afin de guérir, de faire la paix avec sa différence et d'aimer ce qui a été aliéné. Je fais ce pont lors du mois de la fierté parce que je pense que, maintenant plus que jamais, on a besoin de penser à l'acceptation de manière plurielle. Il y a une montée de la transphobie et de l'homophobie inquiétante sur notre continent, mais aussi une montée de l'extrême droite qui a le potentiel de toucher n'importe quel membre issu d'un groupe minoritaire, car lorsqu'on persécute une minorité, on cible avant tout la différence. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de voir nos luttes comme des expériences qui existent en vase clos. La seule manière d'humaniser un groupe est d'humaniser tous les groupes qui font face à la discrimination, puisque c'est, dans la grande majorité des cas, tout interconnecté. Pour y arriver, on peut commencer par connaître et comprendre leur histoire, leurs appropriations et leur réappropriation. Les injures sont très puissantes. Or, même si un mot peut me faire du mal, il ne peut pas me définir sans ma permission. Il ne peut pas non plus être au cœur de mon identité. Il peut aussi être un outil pour faire savoir aux autres qui ne seront pas les raconteurs de mon histoire. French power, black power, queer power. Ça revient toujours à l'autonomisation, empowerment. Ne laissons pas la peur d'autrui changer l'amour qu'on a envers soi-même, réappropriation ou non. C'était « Quand les symboles changent de signification », un éditorial de Jean-Philippe Giroux, paru le 21 juin 2024 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Prévention et dépistage du cancer de la peau. En fait-on assez? Un texte de Simone Caron, paru le 20 juin 2024 dans le magazine Québec Science. À lire attentivement avant de se faire bronzer cet été. Dès que le soleil pointe le bout de son nez après la grisaille printanière, les gens sortent en profiter. Dans les parcs, les piscines municipales et sur les terrasses, on se fait dorer pour enfin arborer notre teint estival. Mais ce geste si banal n'est pas sans danger. Au Canada, une personne sur cinq développera un cancer de la peau au cours de sa vie, indique le docteur Ivan Litvinov, professeur et directeur de la division de dermatologie de l'Université McGill. Cette statistique cache plusieurs types de cancers de la peau d'agressivité variable. Le carcinome basocellulaire est le cancer cutané le plus commun, suivi du carcinome spinocellulaire. Ces deux formes de tumeurs prennent naissance dans l'épiderme et se propagent rarement vers d'autres tissus, mais doivent tout de même être retirées par chirurgie. Puis il y a le mélanome. C'est lui la principale menace. Il représente 5 % des cancers de la peau, mais cause la grande majorité des décès. S'il n'est pas pris en charge assez tôt, le mélanome peut envahir d'autres parties du corps, telles que le sang et les ganglions lymphatiques. Une fois que le cancer a métastasé, il devient beaucoup plus difficile à traiter. Partout dans le monde, les cas de mélanome sont à la hausse. En 2022, des scientifiques du Centre international de recherche sur le cancer ont estimé que le nombre de nouveaux cas de mélanome augmentera de plus de 50 % entre 2020 et 2040. Au Canada, leur incidence a grimpé de 44 % entre 2008 et 2018. Heureusement, le taux de mortalité, lui, diminue depuis 2013 grâce aux nouveaux traitements d'immunothérapie qui offrent une meilleure chance de survie. Mais ces traitements coûtent cher au système de santé. Le gouvernement fédéral estime que le fardeau financier du cancer de la peau atteindra 1 milliard de dollars par an d'ici 2030. C'est le double de la facture d'il y a 20 ans. Chaque année, nos dépenses augmentent pour guérir ces cancers. Mais pourquoi ne pas investir davantage dans la prévention? Demande Ivan Lidvinov. En effet, le cancer de la peau est en grande partie évitable. Bronzage artificiel, attention. Le niveau d'émission de rayons UV des appareils de bronzage varie grandement. Certains appareils peuvent émettre en moyenne de 2 à 14 fois plus de rayons UVA et jusqu'à 10 fois plus de rayons UVB que le soleil de midi en été. Une question de santé publique. La grande coupable est bien identifiée. L'exposition aux rayons ultraviolets UV demeure le principal facteur de risque. Qu'ils proviennent du soleil ou de sources artificielles dans les salons de bronzage, ces rayons endommagent les cellules de la peau et leur ADN. Le risque de développer un cancer cutané augmente avec la quantité de coups de soleil que l'on attrape, surtout s'ils se produisent en bas âge. En effet, un seul coup de soleil sévère, avec des cloques, dans l'enfance, suffit pour augmenter de façon importante les risques de développer un mélanome plus tard. Si les cas de mélanome se multiplient depuis 50 ans, c'est en grande partie parce que le bronzage à la côte. Les populations à peau claire, d'origine européenne, se sont exposées sans compter au soleil au cours des dernières décennies. La recette pour infléchir la courbe est donc simple, réduire l'exposition aux rayons UV, et ce, dès le plus jeune âge. Au Québec, il existe quelques mesures préventives, telles que l'interdiction des lits de bronzage aux mineurs depuis 2013 et l'obligation d'avoir des zones ombragées dans les cours d'école. Mais on pourrait en faire beaucoup plus. Dans un article publié en 2023, le docteur Lidvinov et ses collègues ont évalué les mesures de santé publique de différents pays. Leur recommandation, suivre l'exemple de l'Australie. Ce pays est le plus affecté au monde par les cancers de la peau, mais d'importants efforts de sensibilisation menés depuis les années 1980 ont permis de faire reculer les taux de mélanome chez les plus jeunes. Le pays a aussi adapté sa législation, notamment en intégrant l'exposition au soleil dans les politiques de sécurité au travail, en bannissant les lits de bronzage pour l'ensemble de la population et en supprimant les taxes sur les écrans solaires. Non seulement ces mesures sauvent des vies, mais elles sont aussi rentables. Selon une étude publiée en 2017, chaque dollar investi en prévention fait économiser 3,20 $, ce qui représente un bénéfice net de 1,43 milliard de dollars australiens, 1,29 milliard de dollars canadiens, tant pour la santé de la population que pour celle des finances publiques, mieux vaut prévenir que guérir. Le docteur Lidvinov souhaiterait que les gouvernements du Québec et du Canada lancent eux aussi un message fort contre le cancer de la peau, comme ils l'ont fait pour la vaccination. En effet, ce n'est pas qu'une question de loi, mais aussi de comportement. Ici, ce n'est pas dans la culture d'éviter de s'exposer au soleil, ajoute-t-il. Mais on peut faire évoluer les mentalités. Nous l'avons fait pour les ceintures de sécurité et le tabagisme. Alors pourquoi pas pour l'exposition au soleil? Vous écoutez « Prévention et dépistage du cancer de la peau. En fait-on assez ?» Un texte de Simone Caron paru le 20 juin 2024 dans le magazine Québec Science. La peau sous la loupe. En plus de la prévention, le dépistage joue un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer de la peau. Pourtant, il n'y a pas de consensus scientifique sur les meilleures pratiques de dépistage. Faut-il étendre le dépistage à la population générale ou se concentrer sur les personnes à risque? En Allemagne, par exemple, les 35 ans et plus ont accès gratuitement à un examen dermatologique complet tous les 2 ans. Ici, la situation est bien différente. Au Québec, nous sommes environ 8 millions d'habitants et 200 dermatologues. Ce ne serait pas réaliste de mener un programme comme en Allemagne, indique Joël Claveau, dermatologue spécialisé en cancer de la peau au CHU de Québec. Nos efforts sont donc dirigés vers les plus vulnérables, comme les personnes à la peau très pâle, qui ont beaucoup de grains de beauté, qui ont un historique personnel ou familial de mélanome ou dont le système immunitaire est affaibli. Cependant, le manque de dermatologues et le surmenage des médecins de famille empêchent même certaines personnes à risque de se faire examiner à la fréquence recommandée. Le dépistage doit donc commencer à la maison. Santé Canada recommande de procéder à un auto-examen de la peau une fois par mois. Les mélanomes ont l'avantage d'être visibles. 70% des cancers de la peau sont détectés par les individus eux-mêmes ou par un membre de leur famille. Souvent, quand on passe à côté d'un mélanome, ce n'est pas parce qu'un médecin l'a manqué, indique le docteur Claveau. C'est plutôt parce que la personne savait qu'elle avait une lésion suspecte, mais qu'elle n'a pas consulté de médecin pendant plusieurs années. La liste d'attente pour consulter un ou une dermatologue dans le système public est longue, mais le privé n'est pas la seule option de rechange, précise Joël Claveau. Si vous suspectez un mélanome, allez voir votre médecin de famille ou une clinique sans rendez-vous. Si on juge qu'il s'agit peut-être d'un mélanome, on vous dirigera en priorité vers un dermatologue et on vous prendra en charge dans un délai maximal de 2 à 3 semaines. Le paradoxe de la crème solaire. Si de nombreuses études montrent que l'utilisation de crème solaire est associée à une réduction de la prévalence des mélanomes, plusieurs autres montrent l'inverse. En procurant un sentiment de sécurité, la crème solaire incite ses utilisateurs et utilisatrices à s'exposer davantage aux rayons du soleil. Et malheureusement, la plupart des gens ne l'appliquent pas correctement, observe Ivan Litvinov. Pour atteindre le facteur de protection solaire, FPS, décrit sur l'emballage, il faut appliquer l'équivalent d'un verre à shooter de produit sur le visage et les parties exposées du corps. Et en remettre toutes les 2 heures, voire plus si on transpire. C'est la méthode la moins efficace pour se protéger du soleil, souligne Ivan Litvinov. Se couvrir, porter des vêtements anti-UV ou simplement éviter le soleil demeurent les meilleures options. Si toutefois vous vous exposez, l'Association canadienne de dermatologie recommande l'utilisation d'écrans solaires à large spectre avec un FPS de 30 ou plus pour toutes les couleurs de peau. Mélanome ou pas? Le problème, c'est que la formation des médecins omnipraticiens sur le sujet est évidemment moins approfondie que celle des dermatologues, ce qui mène souvent à un signalement excessif de mélanome. Un de nos plus grands défis est de former les médecins de famille et la population à distinguer la kératose séborréique du mélanome, explique le docteur Claveau. Aussi appelée verrue de sagesse, cette excroissance complètement bénigne apparaît fréquemment après l'âge de 60 ans. Elle est souvent confondue avec un mélanome parce qu'elle répond aux critères ABCDE. qui permettent de repérer précocement une lésion maligne. Si on arrivait à mieux identifier les kératoses séborrhéiques, les dermatologues auraient beaucoup plus de temps et de ressources pour les patients qui ont besoin de leurs services, explique-t-il. Il estime qu'environ un seul cas sur cinq de mélanome probable signalé par les médecins généralistes en est réellement un. Plusieurs études ont montré une amélioration importante du dépistage lorsque les médecins généralistes sont formés à la dermoscopie. Cette méthode non-invasive permet de différencier les lésions bénignes et malignes grâce à un appareil grossissant. Cependant, dans notre contexte de pénurie de médecins de famille, les formations supplémentaires sont difficiles à mettre en place. Dans plusieurs pays européens où la dermoscopie est entrée en médecine générale, le nombre de médecins par habitant est nettement plus élevé qu'au Québec. Des pistes de solutions. Ici, depuis 2022, un programme de télédermatologie permet aux médecins omnipraticiens d'envoyer des photos et des lésions de leurs patientes et patients pour obtenir un diagnostic plus rapide de la part de dermatologues. Cette étape permet d'améliorer le tri, ce qui évite de nombreux rendez-vous non nécessaires. Cet été, une clinique de dépistage gratuite parcourt le Québec. La Méla Mobile. L'objectif est d'atteindre les régions moins desservies ainsi que les villes où les délais d'attente pour une consultation en dermatologie sont plus longs, explique la dermatologue Julia Carroll, membre de l'organisme Mélanome Canada, qui a lancé cette initiative. À l'été 2023, la Méla Mobile était en Ontario, où elle a réalisé plus de 4000 examens de la peau dans une quarantaine de villes. Plus on s'éloigne des grands centres urbains, plus nous détectons de cancers de la peau, ajoute-t-elle. Davantage de gens travaillent à l'extérieur. Nous en profitons pour les sensibiliser à la protection contre le soleil. À moyen terme, l'intelligence artificielle fera son entrée en dermatologie. Plusieurs nouveaux algorithmes sont conçus pour détecter les cancers de la peau à partir d'une image. Toutefois, les scientifiques doivent encore les peaufiner avant leur mise en pratique. Dans une dizaine d'années, peut-être trouverons-nous des scanners à mélanome dans les pharmacies. D'ici là, profitons du soleil, mais avec modération. C'était « Prévention et dépistage du cancer de la peau, en fait-on assez ?» un texte de Simone Caron, paru le 20 juin 2024 dans le magazine Québec Science.